Premier épisode, du passé ouvrier aux changements sociodémographiques plus récents. Réalisé par Solène Denini, Lauréane Caouette, William Larochelle et Serge Navicot.
Qu'est-ce qu'un gâteau ?
Gali Bonin, étudiant et habitant du quartier Parc Extension.
C'est quand je me suis arrêté sur la géographie, ou plutôt la cartographie de Parc Extension, puis c'est quoi son emplacement, puis la place qu'elle occupe dans la ville. Puis tu réalises que physiquement parlant, genre, il y a une ghettoisation qui est encouragée par le fait que Parc Extension s'est enclavé. C'est un peu comme une ville qui est emmurée, puis qu'il y a des portes par lesquelles tu peux passer. Tu peux pas rentrer n'importe où dans une ville fortifiée. Faut que tu passes par une des portes. Puis c'est exactement ça ici. Donc, à l'ouest, il y a Acadie avec la barrière de Ville-Mont-Royal, le grand mur de Ville-Mont-Royal qui barre de temps à autre. T'as au nord, la 40, qui est comme, tu veux pas, genre, ça se traverse pas aussi facilement. Puis, à l'est, puis au sud, t'as les deux tracts de chemin de fer.
Sacha Dyke, Comité d'action de Parc Extension.
C'est comme un mini pays à part, où comme les gens disent, faire le tour du monde sans avoir besoin de son passeport, on peut manger un peu de tout, on peut voir des gens un peu partout. C'est un quartier pauvre, mais parce qu'on a un tel roulement de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes, c'est une pauvreté qui est très dynamique. On n'a pas les mêmes enjeu de pauvreté qu'on verrait dans un quartier qui est historiquement pauvre. Alors oui, une défavorisation matérielle, mais nous sommes riches socialement. C'était surtout des terrains agricoles avec des gens canadiens, français, anglo-français. Ensuite, une vague d'immigration juive dans les années, vous pouvez deviner pourquoi. Et ensuite, on a vu la vague méditerranéenne dans les années 50-60, des gens qui fuyaient des régimes totalitaires en Grèce et en Italie. Et les Grecs ont vraiment investi le quartier à tel point où dans les années 70% des gens dans le quartier répondaient que le grec était leur langue maternelle à la maison au recensement. Alors c'était vraiment le quartier grec de Montréal. Maintenant, on pourrait dire que c'est majoritairement des gens de l'Asie du Sud, donc Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka.
Asian community is fighting and succeeding at keeping its culture alive. Thousands of South Asian families emigrated in the late 60s and early 70s. Many came from the villages of the Indian state of Punjab. They included a large number of Sikhs, although there were Hindus and Muslims as well.
Intervenant auprès des communautés sud-asiatiques.
Cette immigration indienne, c'est suite à 1984, le Golden Star Incident. Il y a eu quasi génocide hein, des Indiens du Punjab, les Sikhs, après que Indira Gandhi a été tuée par son bodyguard qui était Sikh. Ils ont commencé à tuer tous les gens qui portaient des turbans dans la rue. Vous voyez un jeune mâle avec un turban, il tuait. Alors, ce qui a fait que beaucoup de jeunes mâles Sikhs sont venus au Canada et ont demandé le statut de réfugié. Alors, ça dépendamment des choses comme ça, ça peut amener des clientèles différentes. Là, tu sais, il y a des guerres civiles, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans le monde. Alors, ça suit les événements, l'actualité.
Largest, most cosmopolitan of Canadian cities, Montreal is a major link in the global transportation network and headquarters for the world's most complete travel system. Nerve center for the Canadian Pacific Railway's widespread operations on land, at sea, and in the air is vast and vaulted Windsor Station, terminus of the world's first transcontinental railway, the oldest route, the newest trains.
Si bien des Canadiens de moins de 40 ans n'ont jamais pris le train, il fut un temps où les chemins de fer étaient aussi indispensables à ce pays que les autoroutes et les avions le sont aujourd'hui. Non seulement ont-ils marqué l'avènement du transport et du commerce moderne, mais ils sont au cœur de la croissance du Canada en tant que nation.
You know, it's a funny thing. The railway station seems to be the heart of every town. And no wonder. The railroad brings the world to us and us to the world.
Alors, on pourrait parler un peu de l'histoire du quartier. Ce jour était un quartier de la classe ouvrière depuis son annexation à la ville de Montréal en 1910. Et au début, c'était des fermiers surtout. Tout Parkex était ouvert et c'était des fermes. Parkex n'existait pas vraiment. Il y avait la rue ici à côté du chemin de fer. Mais tout ce qui était comme activité économique, autre que les fermes, était relié au chemin de fer. Alors, ici, entre Jean Talon et Beaumont constituaient l'ensemble de Parc Extension pendant les 20-30 premières années. Et c'était tout relié à des industries qui desservaient directement la cour de triage. Alors ici à Parc Ex, c'est vraiment le chemin de fer qui a ouvert le quartier.
Gare de triage, il n'y a pas de passagers, là. Entendons-nous bien, il n'y a pas de passagers là. C'était uniquement pour des marchandises. Montréal était la plaque tournante de la circulation des marchandises en Amérique du Nord. Et à la gare de triage, on triait ces marchandises-là. Il y avait une plaque ronde à côté du Roundhouse où les trains se faisait charger de marchandises, que ce soit du grain, du blé ou toutes sortes de marchandises, et c'est là qu'ils étaient approvisionnés.
Jean-François Lusignan, urbaniste pour l'arrondissement d'Outremont.
Donc, gare de triage d'Outremont, du Canadien Pacifique, du CP, qui a débuté ses opérations à la fin du 19e siècle à Outremont, qui est très, très importante, cette ancienne gare de triage dans le développement du secteur, puis ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le territoire, quand on circule dans les abords, il y a des traces partout de ce passé ferroviaire-là.
Simon Harel, professeur titulaire à l'Université de Montréal.
Parc Extension, c'est un milieu ouvrier. Et c'était des gens qui travaillaient dans l'industrie lourde, notamment dans l'industrie, en fait, dans le domaine ferroviaire, fabrication de locomotives, entretien. Et donc tout cela s'est terminé brutalement, je dirais, au cours des années 50. Parc Extension a certainement connu une désindustrialisation très forte et une disparition des industries manufacturières traditionnelles.
Malgré la proximité physique de l'arrondissement d'Outremont et du quartier Parc Extension, ceux-ci sont séparés par une barrière physique réelle, qu'est le chemin de fer. Du côté d'Outremont, on retrouve une population nettement moins diversifiée qu'à Parc Extension, majoritairement blanche, aisée et francophone. Cet héritage sociodémographique lui vient de son histoire. Plus précisément, lorsque le quartier s'est fait occuper par des classes sociales, voulant s'éloigner de l'industrialisation rapide de Montréal au 19e siècle. C'est aussi au cours du 19e siècle que l'Université de Montréal est créée. Elle attire donc de nombreux médecins, avocats et scientifiques à Outremont, sur les flancs du Mont-Royal. Ces mouvements de population aisée vers Outremont, fuyant les quartiers plus démunis, est un signe d'ascension sociale qui a marqué et marque encore la population d'Outremont.
Outremont, un arrondissement cossu de 25 000 habitants.
Ce sont des gens assez lettrés, assez éduqués en général. On a une communauté importante de Juifs hassidiques à Outremont. On parle de 25 % maintenant de la population, ou presque.
Avec en moyenne 6 enfants par famille, la communauté a besoin d'espace et craint d'être coincée.
C'est une communauté qui est au Québec depuis plus de 50 ans. C'est une communauté qui a commencé tout petit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puis qui a peu à peu grandi.
Outremont est aussi marqué par une forte population juive arrivée dans les années 1930, fuyant la montée de l'antisémitisme en Europe, dont la majorité est hassidique. Malgré leur présence dans un des quartiers les plus riches de Montréal, ces derniers ne sont pas aussi aisés que la population francophone blanche et sont donc plus vulnérables aux changements économiques et socioculturels, tout comme le sont les populations immigrantes de Parc Extension. Le quartier de Parc Extension, qui a toujours été un territoire d'accueil pour les communautés immigrantes, subit des changements causés par la désindustrialisation et la revitalisation de son espace urbain.
C'était des usines au sud de Beaumont, et là, on assiste à une transformation d'une industrie primaire à vraiment une industrie tertiaire. Par exemple, ici, on avait une entreprise qui imprimait, c'était une imprimerie, imprimait des livres de cours, surtout scolaires. Maintenant, ça vient d'être vidé. J'imagine que ça va être un cabinet d'architectes ou des designers graphiques ou une compagnie de logiciels qui va s'installer là. Alors, on passe très vite de la fabrication de choses à ces industries immatérielles de services et de l'économie du savoir.
Juliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension.
Ça a été une demande citoyenne depuis toujours de désenclaver Parc Extension, parce que c'était jugé que le fait qu'on soit enclavé, c'était un empêchement de circulation. Et lorsqu'on regarde la clôture qui est du côté est, là où il y a le chemin de fer, mais vous allez remarquer qu'il a été coupé et s'est coupé à plusieurs endroits. Ça, même depuis que ma mère est arrivée dans les années 50, elle aussi me raconte que même à l'époque, on coupait la clôture pour passer au travers.
Malheureusement, les nouveaux arrivants peinent à se trouver des logements. Alors, c'est un changement démographique qu'on voit. Et c'est pour être très franc, c'est un blanchissement de la population. Parce que les propriétaires, pour des raisons qui leur sont propres, souvent préfèrent au même prix louer à des jeunes familles blanches ou à des étudiants blancs. Alors, c'est un vrai changement démographique. Et je dirais une certaine javelisation de la population de Parc Extension.
Maintenant, l'ironie veut que les résidents avaient commencé à dire « on ne veut plus ouvrir Parc Extension ». Parce qu'on se rend compte que finalement, on était protégé contre tout ce qui est en train d'arriver au niveau de la gentrification. Donc, il y avait ce besoin de s'ouvrir, puis maintenant, par rapport à la gentrification, par rapport au campus, les gens veulent justement, veulent pas que les gens accèdent au quartier. Et donc maintenant, la revendication, qui a été une revendication citoyenne depuis, on va dire, minimum les 50 dernières années, mais maintenant, c'est comme les gens ne la veulent plus, ne veulent plus ce désenclavement, et au contraire, veulent vraiment, s'ils pouvaient ériger des vrais murs, ils le feraient.